Vous écoutez, on lit pour vous.
L'exercice améliore les chances de survie, selon une étude canadienne. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juin 2025 dans La Presse. 2 à 3 heures de marche rapide par semaine augmentent de 37 % les chances de survie des personnes atteintes d'un cancer colorectal, selon une nouvelle étude canadienne. Les rechutes diminuent aussi de 28 %. C'est un résultat aussi important que l'introduction d'une nouvelle chimiothérapie, explique Christopher Booth, oncologue à l'Université Queen's en Ontario, qui est l'auteur principal de l'étude publiée le 8 juin 2025 par la prestigieuse revue médicale New England Journal of Medicine. Parmi les 889 patients qui ont participé à l'étude, la moitié avait un programme d'exercice. Le taux de survie après 8 ans était de 83 % pour le groupe contrôle et de 90 % pour le groupe qui faisait de l'exercice. Le suivi commençait après une intervention chirurgicale et des traitements de chimiothérapie. Le groupe contrôle ne recevait pas d'aide à la remise en forme, seulement un dépliant décrivant les bénéfices de l'exercice physique. Pour l'autre groupe, la quantité supplémentaire d'exercice correspondait à 4 fois 45 minutes de marche avec un léger essoufflement, l'équivalent d'environ 5 km/h chaque semaine ou alors à 4 fois 25 minutes de jogging. Les patients avaient une rencontre toutes les 2 semaines avec un physiothérapeute ou un kinésiologue dans la première année et tous les mois dans les 2 années suivantes. Les patients ayant reçu l'aide à l'exercice faisaient 50 % plus d'activité physique en moyenne que le groupe contrôle, atteignant 3 séances de marche rapide plutôt que 2 chaque semaine. L'exercice ne remplace pas la chirurgie ou la chimiothérapie, prévient le Dr Booth, qui présentait ses résultats à Chicago au congrès de la Société américaine d'oncologie clinique. Mais plusieurs patients nous demandent ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs chances de survie après les traitements. On répond à cette question. Cette étude montre que la recherche académique peut améliorer la qualité de vie et la survie des patients. Ce ne sont pas seulement les médicaments qui font la différence, souligne le docteur Denis Soulière, hématologue, oncologue et porte-parole de la Société canadienne du cancer qui a financé l'étude. Plusieurs recherches ont déjà été menées sur le fait que l'exercice physique aide à diminuer le brouillard mental généré par la chimiothérapie, peu importe le type de cancer, ajoute le docteur Soulière. Celle du docteur Booth a étudié aussi cet aspect avec des conclusions similaires, mais les résultats de cette partie de l'étude seront publiés à une date ultérieure. Coût économisé. La prochaine étape est de calculer combien on économise en coûts pour le système de santé en évitant les rechutes grâce à l'activité physique. Le Dr Booth estime qu'ils peuvent être divisés par 10. Notre programme, dit-il, coûte entre 3 000 $ et 5 000 $ pour 3 ans. Le coût d'une chimiothérapie dépasse très souvent 100 000 $. Il prévoit de finir ses calculs d'ici 6 mois. Mais le docteur Soulière s'inquiète de la capacité du système de santé à offrir ce genre de service. On a déjà eu des programmes similaires d'exercice physique au CHUM après les chirurgies oncologiques, mais ils étaient payés par une fondation privée, souligne-t-il. Et même si le système de santé reconnaît que les bénéfices dépassent les coûts, il est parfois difficile pour les patients d'obtenir les services. Une autre analyse se penchera sur les bénéfices possibles pour les patients déjà en forme et pour ceux qui le sont moins. En d'autres mots, est-ce que les sportifs qui font déjà du jogging 4 fois par semaine ont les mêmes effets positifs s'ils augmentent leurs entraînements à 8 séances de jogging que les gens qui sont inactifs et se mettent à marcher 3 ou 4 fois par semaine? Des changements physiologiques. Pour comprendre pourquoi l'exercice physique prévient les rechutes du cancer, le Dr Booth va poursuivre ses travaux. Nous allons analyser les échantillons sanguins pris durant le suivi. Une théorie veut que l'exercice physique provoque des changements physiologiques, notamment dans le métabolisme de l'insuline, qui ont un impact sur l'apparition et la croissance du cancer, avance-t-il. Est-ce que la découverte de ce mécanisme pourrait mener à de nouveaux médicaments? Peut-être, mais il serait probablement dispendieux et aurait des effets secondaires, répond le chercheur. Le cancer colorectal a été choisi pour tester l'effet de l'exercice physique sur les rechutes en raison d'une étude de 2006 ayant montré des effets prometteurs, précise l'oncologue ontarien. En savoir plus. 27 000. Nombre de nouveaux cas de cancer colorectal chaque année au Canada. Source, Société canadienne du cancer. C'était « L'exercice améliore les chances de survie selon une étude canadienne », un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juin 2025 dans La Presse.
L'industrie du plein air profite de la guerre commerciale. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 24 juillet 2025 dans Le Devoir. Avec le mouvement de boycottage des États-Unis, de nombreux Québécois ont choisi de passer leurs vacances dans la province cet été. Une tendance qui se ressent dans les boutiques de plein air, particulièrement achalandées ces dernières semaines. Malgré l'affluence, les ventes sont en deçà des attentes, freinées par un printemps pluvieux et une incertitude économique persistante. Depuis le début de juillet 2025, il y a vraiment un achalandage exceptionnel dans nos magasins, surtout au Québec. Encore cette semaine, les stationnements sont pleins, constate avec contentement la présidente directrice générale de SAIL, S-A-I-L, Isabelle Lemay. Avant même que la haute saison commence, les détaillants du secteur étaient persuadés que la guerre tarifaire amorcée par le président Donald Trump allait profiter à leur industrie. En plein cœur de l'été, alors que les traditionnelles files d'attente aux frontières ont disparu, signe que les Québécois boudent bien les États-Unis, la tendance se confirme. Dans la succursale de Sale à Laval, Le Devoir a en effet relevé un va-et-vient constant de clients dans les rayons consacrés aux activités de plein air lors des premiers jours des vacances de la construction. La chasse, la pêche, le camping, la randonnée et la course à pied ont particulièrement la cote cette saison. Ces catégories ont enregistré une croissance des ventes comparativement à 2024, relève Mme Lemay. Certains articles ont même été pris d'assaut. Lors de notre passage, certains modèles de matelas de sol ne figuraient déjà plus sur les tablettes. C'est vrai qu'on a un défi de répartition des stocks d'un magasin à l'autre. Les gens sont en dernière minute cette année. Ils arrivent tous en même temps, explique-t-elle. Ruée vers le camping. Du côté de l'accordé, les ventes vont aussi bon train depuis début juillet 2025. Et c'est la même chose à chaque crise économique ou événement du genre. Les gens voyagent moins, restent ici et renouent avec le camping, fait remarquer le directeur général de l'enseigne, Robert Brunet, qui travaille depuis une trentaine d'années dans le commerce de détail de plein air. Dans sa succursale du centre-ville de Montréal, les clients se ruent, surtout sur les accessoires de camping. Les gens ont déjà leur tente, mais viennent compléter ou renouveler le reste de leur équipement. On vend beaucoup d'ustensiles, de réchauds, de matelas, de sacs de couchage et de chasse moustique, ajoute-t-il. Le constat est le même chez Altitude Sport. Les ventes dans le secteur du camping et de la course à pied ont augmenté de plus de 10 % par rapport à l'an dernier. Le vélo, qui a connu de moins bonnes années en 2023 et 2024, n'est pas en reste et connaît une croissance, certes moins grande que durant la pandémie de COVID-19, mais perceptible. Ça a vraiment démarré il y a quelques semaines. Les gens n'hésitent plus, ils cliquent, lance en riant Maxime Dubois, coprésident de la marque qui vend essentiellement en ligne. « Je n'aurais jamais dit ça si on s'était parlé il y a un mois », poursuit-il. « La saison a commencé vraiment tardivement. On est clairement en mode rattrapage depuis début juillet. » Météo capricieuse. Alors que la saison s'annonçait extraordinaire, certains vendeurs, s'attendant à un boom proche de celui vécu durant la pandémie, la météo est venue jouer les troubles fêtes. Les ventes sont bonnes, mais elles auraient pu être bien meilleures. On ne s'attendait pas à avoir un printemps aussi difficile. En mai 2025, il n'en finissait plus de pleuvoir et de faire froid. Juin 2025 n'a pas été terrible non plus. La météo, ça reste le facteur numéro un pour les ventes dans notre secteur, souligne Robert Brunet de la Cordée. Face à ces temps peu estivaux, les Québécois ont mis du temps avant de passer les portes des magasins de plein air. Plusieurs ont préféré attendre jusqu'à la dernière minute avant de s'équiper pour leurs vacances, craignant que la météo ne fasse tomber leur plan à l'eau. Sans oublier que l'incertitude économique règne toujours, la question des tarifs douaniers faisant encore régulièrement les manchettes. On ressent que les Québécois sont prudents et moins dépensiers. Il n'y a pas d'achat impulsif. Chaque dépense semble bien réfléchie, soutient M. Brunet. À pareille date, chaque année, on a toujours une période de solde. On sent que les gens ont attendu ce moment pour acheter à plus bas prix cette année. D'habitude, ils ne se freinent pas pour s'équiper dès le début de la saison, renchérit Maxime Dubois d'Altitude Sport. Mais l'été est loin d'être terminé, puisque les vacances de la construction ne font que commencer. Et si on se fie aux dernières années, l'été a tendance à s'étirer en septembre et en octobre. On vient tout juste de commander de nouveaux kayaks, et je suis pas mal sûr qu'on réussira à bien les vendre en septembre. Lance la PDG de Sail, confiante pour le reste de la saison. C'était « L'industrie du plein air profite de la guerre commerciale ». Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 24 juillet 2025 dans Le Devoir.
Des aliments moins nutritifs à cause de l'agriculture moderne, un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 juillet 2025 dans La Presse. Est-il vrai que les fruits et légumes ont moins de nutriments à cause de l'agriculture intensive? Demande une lectrice, Emma Boileau. Oui, la concentration en nutriments a diminué au fil des années, mais pas seulement à cause de l'agriculture intensive. Et le phénomène a surtout été démontré pour les céréales, comme le blé. Un suivi sur les légumes au Royaume-Uni a montré une baisse de la concentration en nutriments au fil des décennies, explique Steve McGrath, de l'Institut de recherche agricole, Rothamsted, au nord de Londres. Mais les preuves les plus fortes concernent les cultures arables comme le maïs, le blé et le riz qui composent une plus grande part de notre alimentation que les légumes. Selon plusieurs études, depuis un demi-siècle, la quantité de nutriments comme le fer, le cuivre, le magnésium et le calcium, notamment, a décliné de 20 à 50% par gramme de céréales, de fruits et de légumes. M. McGrath a fourni les preuves les plus fortes avec des études sur le blé publiées il y a 20 ans. Au fil des années, les méthodes d'analyse ont changé, les instruments sont plus sensibles. Ça peut fausser les résultats. Il y a aussi des différences de climat et de sol. Nous avons donc décidé de retourner analyser les échantillons des décennies passées et nous avons fait une étude sur 3 ans en serre sur des variétés d'aujourd'hui et d'antan. Révolution verte. Pour les céréales, le responsable de la baisse des nutriments est la révolution verte qui, grâce à des croisements traditionnels, a fait bondir les rendements du blé, du riz et du maïs à partir des années 1960. On a obtenu pour le blé des variétés qui faisaient croître les parties comestibles plutôt que la tige, explique Andy Gregory, responsable des essais à long terme à Rothamsted. Ces essais à long terme ont été lancés au milieu du 19e siècle. Les nutriments moins présents dans le blé sont l'azote, le phosphore et le potassium pour les macronutriments et le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse et le cobalt pour les micronutriments présents en doses beaucoup plus faibles selon M. McGrath. Les vitamines n'ont pas été étudiées. Ces changements ne sont pas pris en compte par les comités qui font des recommandations en alimentation, déplore le biologiste britannique. Les portions typiques d'aliments à base de blé contiennent plus de calories, mais moins de nutriments, note-t-il. Maladies et irrigation. Le phénomène est probablement le même pour les fruits, selon M. McGraw. Si on fait des croisements pour avoir des variétés plus grosses, on dilue la quantité de nutriments par unité de poids. Mais on peut avoir la même dilution en utilisant de l'engrais ou des pesticides, ou si on améliore l'irrigation et la surveillance des maladies. Il y a aussi une dilution si le climat est particulièrement propice une année donnée. En revanche, s'il s'agit de maladies touchant les racines, il n'y a probablement pas de dilution de nutriments, selon lui. En d'autres mots, la plupart des manières d'avoir une croissance agricole plus rapide provoquent une dilution des nutriments. L'agriculture biologique entraîne moins de dilution parce qu'elle a des rendements plus faibles. Si on a des fruits et légumes ratatinés à cause des maladies ou du manque d'eau, ils ont probablement une plus grande concentration de nutriments, dit M. McGrath. La prochaine étape de ces recherches est de trouver une manière d'augmenter la quantité de nutriments dans les nouvelles variétés de céréales. Ça pourrait se faire par génie génétique, pour avoir plus de transport des nutriments dans les parties comestibles. On pourrait aussi voir si différents types de cultures, de gestion des sols ou d'engrais ont un impact sur ce transport des nutriments. Il faut faire une nouvelle révolution verte. En savoir plus, source PNAS, 1% augmentation annuelle du rendement du blé depuis 50 ans. 0,8% augmentation annuelle du rendement du riz depuis 50 ans. 0,7% augmentation annuelle du rendement du maïs depuis 50 ans. C'était « Des aliments moins nutritifs à cause de l'agriculture moderne », un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 juillet 2025 dans La Presse.
Reconquérir le droit de rêver, un texte de Karel Méran, paru le 26 juin 2025 dans L'Actualité. Dans cette époque qui bascule vers la dystopie, le premier pas vers la liberté passe par la reconquête de notre pouvoir d'imaginer le monde autrement. Aujourd'hui président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, Carrel Méran est un observateur privilégié des enjeux sociaux et environnementaux depuis 25 ans. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez eu véritablement l'impression de pouvoir orienter la suite de l'histoire, de choisir dans quelle société vous souhaitiez vivre? Pour certains, c'est à l'élection de 1960 qui a déclenché la Révolution tranquille. Pour d'autres, c'est en 1976, lors de l'élection qui a porté René Lévesque au pouvoir. Dans mon cas, c'est au référendum de 1995. Si vous avez moins de 45 ans, ce n'est probablement jamais arrivé. Depuis deux générations, nous ne choisissons plus, nous subissons. Et avec le temps, nous cessons d'espérer et nous nous replions dans le cynisme, le confort et l'indifférence. L'espoir, le rêve, l'audace se sont éteints en nous. Les élections se suivent et se ressemblent. Elles sont devenues de grands concours de popularité où les débats sont dictés par des clips de 10 secondes spinés ad nauseam sur les chaînes d'information continue. On débat de structure, d'acronymes, de budget, de déficit. On donne l'impression de changement sans jamais rien changer pour vrai. On nous inonde de promesses ciblées, de baisses d'impôts pour acheter nos voix. On salit l'adversaire, tout pour attirer quelques secondes de notre attention. Et si, de temps à autre, une formation politique a la témérité de proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire, une idée porteuse de véritables changements, le système immunitaire, composé des médias, des lobbies économiques et des groupes d'intérêts divers, s'assure de tuer ce dangereux virus avant qu'il ne se répande. Comment s'étonner alors que beaucoup d'entre nous décrochent et se désintéressent complètement de la politique? C'est un peu comme si nous avions entrepris collectivement de creuser un immense trou, « a big beautiful hole », pour paraphraser Donald Trump et son « big beautiful bill », et que nous débattions collectivement de la couleur de l'appel à utiliser pour réaliser ce grand projet. Si un jour quelqu'un demandait « Mais pourquoi creusons-nous ce trou? Ne pourrions-nous pas faire autre chose? » Instantanément, cette personne serait ridiculisée, qualifiée de dangereuse radicale. Et elle se ferait répondre « Votre décision se limite à choisir l'appel. » Et on recommencerait à creuser. Depuis trop longtemps, le périmètre des choix qui nous sont offerts se rétrécit comme peau de chagrin. Toute décision pour l'avenir de notre société doit se prendre à l'intérieur des contraintes du capitalisme néolibéral, des accords de commerce international, des conventions collectives et des bureaucraties paralysantes, d'une constitution écrite au 19e siècle par des hommes en redingote et d'un système politique et électoral qui nous condamne à élire les mêmes partis à l'infini. Le cadre est fixé et il se rétrécit constamment. Mais il y a pire. La société néolibérale dans laquelle nous vivons s'emploie depuis des décennies à tuer en nous toute idée de changement. On nous conditionne dès la naissance à accepter ce cadre débilitant, à choisir l'appel, à creuser le trou. À grands coups de publicité et d'endoctrinement, on fait de nous des consommateurs, des investisseurs, des payeurs de taxes. Nous n'existons que comme des créatures au service de l'économie. Notre espace mental est envahi par la publicité, la quête de performance, la pression financière et le désir de s'enrichir. Chaque seconde de notre attention est monétisée par les plateformes en ligne et les téléphones intelligents. Nous n'arrivons même plus à imaginer un monde à l'extérieur de ce cadre étouffant et anxiogène. Nous avons subi l'ablation de notre capacité de rêver et donc de décider. Ne reste plus que la colère, qui est attisée par les algorithmes des plateformes numériques parce qu'elle leur est profitable. La colère qui gronde partout en Occident et qui nourrit la montée des mouvements d'extrême droite est compréhensible. Elle est le symptôme de ce cadre étouffant et de cette camisole de force que nous avons nous-mêmes enfilée en échange de la promesse d'une plus grande prospérité. Le système nous a avalés. Comment arriver à s'en sortir? Il faut d'abord libérer notre imagination, déprogrammer notre cerveau pour parvenir à rêver un monde différent. Dans Revolution, John Lennon chante « You tell me it's the institution? Well, you know, you better free your mind instead. » Arrêtons de débattre d'acronymes, de structures, de déficits et d'impôts et pensons plutôt au monde dans lequel nous voulons vivre. il est temps de libérer notre esprit, de réentraîner le muscle de notre imagination. Nous sommes conditionnés à croire que le vrai changement est impossible, et pourtant l'histoire nous démontre le contraire. Mon grand-père a vu le jour dans une ferme et ma grand-mère dans un taudis dans les années 1920. Aucun d'eux n'a pu terminer l'équivalent des études secondaires. Ils ont grandi en se faisant dire qu'ils étaient nés pour un petit pain. Cela ne les a pas empêchés de croire que nous pouvions, ici au Québec, créer un système d'éducation et de santé universel, nationaliser l'électricité et construire les plus grands barrages au monde, reprendre la maîtrise de notre territoire et de notre économie, accueillir l'une des plus grandes expositions universelles de l'histoire, puis des Jeux olympiques, développer l'une des cultures les plus florissantes sur la planète. S'ils ont été capables de déplacer des montagnes pour y arriver, pourquoi ne pourrions-nous pas y parvenir à notre tour alors que nous sommes plus riches, plus instruits? Allons-nous mourir à petit feu en subissant le monde comme une fatalité ou reconquérir notre droit de créer le monde dans lequel nous voulons vivre? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été entièrement conçu, planifié et réalisé à partir de notre imagination, puis par notre volonté collective. Cette volonté, nous l'avons abdiquée lorsque nous avons cessé de rêver et que nous avons simplement accepté que d'autres choisissent en notre nom. Le rêve est le premier pas de notre reconquête. Heureusement, le réveil a déjà sonné et il existe au Québec un collectif nommé Multitude dont l'objectif est de réengager les citoyens de toutes les régions dans un grand bouillon d'idées et de réinvestir l'espace politique à l'extérieur des structures partisanes et des bulles polarisantes des médias sociaux. L'idée est simple, réunir des gens de tous les horizons et de toutes les orientations politiques pour discuter ensemble du Québec que nous voulons. Le mouvement a déjà tenu des dizaines d'assemblées de cuisine et plusieurs rassemblements régionaux. Libérer nos esprits. Recommencer à rêver ensemble. Imaginez ce que nous pouvons accomplir. Le plus grand obstacle est entre nos deux oreilles. Il est temps de reconquérir notre droit de rêver. À l'aube des vacances, alors que nous ralentissons le rythme et qu'il faut créer un peu d'espace dans nos têtes pour laisser passer l'air et entrer la lumière, c'est l'idée délicieusement subversive sur laquelle je veux vous laisser. Vous en ressortirez plus libre et vous saurez que vous n'êtes pas seul. Le battement d'aile du papillon deviendra bientôt un grand vent de changement. C'était « Reconquérir le droit de rêver », un texte de Karel Méran, paru le 26 juin 2025 dans « L'actualité ».